France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, comment les grands livres nous font grandir ? À la recherche du temps perdu, Gatsby le Magnifique, Portnoy et son complexe, Raison et Sentiment, Lettre à mon juge, 1984, David Copperfield, Mrs. Dalloway, Les Fables de La Fontaine ou encore Hamlet et des centaines d'autres, bien évidemment. Pourquoi les classiques résonnent à ce point en nous, même à des siècles d'écart ? Comment expliquer leur formidable pouvoir émancipateur ? Comme le disait Italo Calvino dans Pourquoi lire les classiques ? Les classiques nous servent à comprendre qui nous sommes et où nous en sommes arrivés. Nous verrons ce qu'est un classique, et nos invités partageront les grands livres qui les ont transformés en profondeur, Jean-Joseph Julot, Emmanuel Godot et Christilin Pelédouel. Eux, ce sont les Bouvard et Pécuchet du vendredi, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino. Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie. Quel est le menu de votre chronique, les punchlines de la philo en fin d'émission? Je n'ai pas dit qui était Bouvard et qui était Pécuchet.
Oui, mais en tout cas, il faudrait que vous soyez Flaubert.
Exactement. Yeah. Tu viens de me piquer ma réplique,
pas mal,
là.
Pas mal. Donc, du tout.
C'est bien ça.
Pas mal.
Donc,
du tout.
Voilà. Alors, une punchline de la philosophie cette semaine, et pour la première fois, la punchline d'une femme philosophe, Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient.
Bonjour Guillemette, quelle est votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine ? Je rappelle que vous êtes chef de rubrique cinéma à Télérama.
Eh bien, nous allons parler de grands livres. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer... finalement, comment contourner aussi les grands films ?
Et pour votre remarque, Thibaut vous passera la compta après l'émission.
Mais comme d'habitude.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la culture qui fait du bien à notre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Comment Proust a changé ma vie ? Il l'a changé deux fois, de façon très déterminante. D'une part, il a éclairé le milieu où moi j'ai vécu, et il m'a montré que c'était un monde, un univers de formes vides, en quelque sorte, puisque j'ai été élevée dans un milieu aristocratique. Mes arrière-grands-parents ont bien connu Proust, des deux côtés, du côté de ma mère et du côté de mon père, si bien que j'avais une sorte de familiarité avec une œuvre que je n'avais pas lue, avant de l'avoir lue, bien entendu. Et puis l'autre chose qu'il a faite, c'est qu'évidemment, il m'a donné les clés de l'ostracisme dont sont victimes les homosexuels, au moment où moi-même, je sortais du placard auprès de ma famille. Donc, ce sont deux choses absolument considérables qu'il a faites pour moi, parce qu'il a expliqué mieux que je ne pouvais le faire ce que j'étais en train de vivre.
La professeure de littérature Laure Murat, qui avait publié Proust, roman familial, un formidable essai qui racontait comment, à la recherche du temps perdu, avait changé sa vie. Bonjour Emmanuel Godot.
Bonjour Ali.
Vous êtes poète, essayiste et vous enseignez la littérature au lycée Henri IV à Paris. Et vous publiez un livre très stimulant qui a inspiré cette émission avec les grands livres Actualité des classiques, publié à l'Observatoire. Bonjour Jean-Joseph Julot.
Bonjour Ali.
Écrivain à succès, professeur d'histoire et de littérature française. Vous publiez une nouvelle édition de 800 pages, La littérature française pour les nuls, plus de 10 siècles de littérature du Moyen-Âge à nos jours. Bonjour Christine Pelédouel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante, conférencière et autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Que vous inspirent ces beaux propos de Laure Murat ?
D'abord,
Christine Pelédouel.
Un mot pour parler de Laure Murat, qui est une femme absolument remarquable, extraordinaire, et son livre, alors pas seulement celui-là, l'autre aussi, Relire, le précédent, qui est magnifique. Et ce qu'elle dit là de l'influence de la littérature directement sur sa propre vie et comment ce livre lui a permis de comprendre dans quel milieu elle vivait et les conséquences derrière cette compréhension, ce livre est remarquable, il est à lire absolument.
Emmanuel Godot ?
Oui, je crois que la manière dont elle en parle nous rejoint dans nos expériences les plus fondamentales, parce que les grands livres, en fait, que ce soit Proust, Montaigne ou d'autres, viennent nous rejoindre à l'endroit où nous sommes peut-être les plus vulnérables et les plus attentifs à notre destin d'être humain.
Jean-Joseph Julot.
Alors pour moi, Laure Murat, c'est d'abord Murat, c'est d'abord un nom, parce qu'on remonte quand même à toute cette épopée de Joachim Murat, qui a été un militaire extraordinaire, qui a fini tragiquement, fusillé à 48 ans. Et donc, le nom même de Murat m'incite à une attention particulière. Et pour moi, le livre de Laure Murat, c'est un des grands livres que j'ai lus ces dernières années. C'est quand même extraordinaire, toute la lucidité qu'elle a par rapport à son milieu, pour tout son parcours et pour tout ce qu'elle dévoile aussi de ces hypocrisies de certains milieux, de certaines castes, c'était jubilatoire et attristant à la fois.
Alors Emmanuel Godeau, je cite l'incipite de votre livre, à l'origine de ce livre, cette expérience, combien de fois répétée qu'on appelle un classique ou un grand texte, et avoir le sentiment de sortir d'un exil et de retrouver une sorte de patrie qu'on cherche en vain à côté de l'actuel. À quoi ressemble cette patrie imaginaire ?
D'abord, on y parle une langue qui est accueillante à ce que nous avons, comme je disais tout à l'heure, de plus fragile. Et puis aussi, peut-être ça a à voir avec nos idéaux, nos désirs de justice, nos désirs de fraternité, de visage. Et j'ai toujours trouvé que dans les grands textes, on me parlait une langue digne de ce que je pressentais ou que je cherchais dans mon existence. Qu'on peut trouver, certes, avec des vivants, Dieu merci, dans les grands livres, il me semble que quelque chose s'est fixé de ce que nous cherchons au plus intime de nous-mêmes.
Votre définition d'un grand livre est très simple, je vous cite, les grands livres, il faudrait tout simplement dire que ce sont des livres qui nous grandissent.
Oui, qui nous grandissent. J'ai l'impression de vivre dans une société avec des discours qui sans cesse viennent nous amoindrir, nous caricaturer, nous mutiler, nous réduire à des postures de consommation, de postures diverses. Je ne vais pas les énumérer. Et là, tout à coup, dans le grand livre, j'entends une langue à la mesure de ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes.
Jean-Joseph Julot, quelle est votre définition d'un classique, d'un grand livre ?
Alors pour moi, un classique, c'est un livre qui a déjà fait ses preuves, qui a été lu, apprécié, aimé par bien d'autres que nous avant que nous existions, c'est-à-dire dans les siècles précédents. Et c'est ce contenu garantit en quelque sorte une sorte de vérité par rapport à tout ce qui nous compose notre pensée et nos avis aussi, notre morale éventuellement. Pour moi, le grand livre qui m'a construit, c'est Les Essais de Montaigne. Voilà. Ça, c'est ce qui a fondé une partie de ma philosophie et puis aussi qui m'a appris que tout est, comme il le dit, le monde est une branloire pérenne, tout bouge, rien n'est fixe, même la pensée. Je ne peins pas l'être, mais je peins le passage, c'est-à-dire de jour en jour, il dit même de minute en minute, il n'y a rien de pérenne, tout bouge. Et ça me plaît beaucoup, parce que ça enseigne aussi le doute par rapport à soi, le doute par rapport à ce qu'on croit trop fermement quelquefois. Il apprend la tolérance, il apprend l'humour, il apprend beaucoup de choses par rapport à soi, et je trouve que c'est un être extraordinaire. Un petit bonhomme, il était tout petit, et puis il nous parle à travers les siècles.
Christine Appel-Edouane.
Oui, cependant, cette manière que les choses bougent sans cesse, dans les grands livres, il y a aussi la permanence. Et les livres, aussi anciens soient-ils qu'ils sont des grands livres, nous parlent encore aujourd'hui directement à nous, les contemporains des années 2020-2030. Et il y a cette humanité, c'est-à-dire la largeur de vue, une espèce de respiration, de souffle, quel que soit le texte, la profondeur et aussi, alors c'est, pour moi c'est très important, la forme et le fond se rejoignent et coïncident absolument. C'est-à-dire que la langue, un grand livre n'est pas écrit avec les pieds, un grand livre a du style, un grand livre parle une langue, même parfois difficile, hein, nous évoquions Racine tout à l'heure, mais Racine est encore contemporain, je veux dire, quand on va voir une tragédie, elle nous parle directement.
Emmanuel Godeau.
Oui, les grands livres, je vous rejoins, il y a une énergie aussi dans les grands livres. Ils arrivent, ils débarquent dans nos vies, dans notre présent. Et c'est pas du tout lié à une nostalgie, à de supposés âges d'or. C'est vraiment
au contraire,
l'instant. Et puis ça nous projette vers un désir d'humanité plus plus forte et peut-être plus fraternelle.
Et plus large.
Plus large, bien sûr.
Jean-Joseph Julot.
Oui, en fait, ce dont vous parliez, le langage de Racine, qui est composé de 2200 mots uniquement, alors que...
Extraordinaire.
C'est très très peu, finalement. Mais quand Montaigne écrit les essais, il dit, j'écris dans une langue qui est instable, qui n'est pas fixée, parce qu'on peut oublier qu'en 1539, François Ier dit, maintenant, il va falloir parler français. Qui est-ce qui crée la langue française? C'est Ronsard, c'est Du Bellay, c'est Rabelais, et c'est Montaigne aussi. La langue n'est pas stable, et il faut que François de Malherbe arrive au début du XVIIe siècle pour dire « Attention là, il va falloir éliminer au moins la moitié du vocabulaire qui a été inventé par tous ces inventeurs de la langue française ». N'oublions pas que c'est au XVIe siècle qu'elle naît vraiment. Et donc il reste pour La Fontaine, pour Racine, un langage épuré, un langage précis, mais Montaigne, malgré le fait que la langue française ne soit pas née encore, eh bien sa pensée est d'une stabilité, elle est brillante, elle est extraordinaire, donc on peut se dire qu'on enlève le style, il reste la personne quand même, profonde et extraordinairement humaine.
Emmanuel Goudot, vous affirmez dans votre livre qu'un classique, et je vous cite, c'est un refuge ouvert, un lieu où refaire ses forces intellectuelles et morales. Et vous comparez également les classiques à des greniers où refaire ses forces et retrouver le sens du chemin, de l'attention et de la confiance. Refuge et grenier.
Oui, ça fait partie un peu de mes... Alors ça, c'est mes métaphores de poète. Hein. J'ai aussi l'idée d'une maison de famille. Enfin, on a l'impression, quand on revient au fil de l'existence, on avance, évidemment, notre expérience mûrit, on est confronté tous, autant que nous sommes, aux vicissitudes de l'existence, au chagrin, au deuil, etc. Et puis, on va, de temps à autre, retrouver... J'aime l'idée de stabilité, même si le monde, effectivement, nous invite au renouvellement, à l'ajustement perpétuel, mais l'idée d'avoir un peu des jalons, des balises, des phares, comme aurait dit peut-être Baudelaire. Alors moi, je les compare comme ça. Voilà, j'ai besoin d'avoir ces éléments comme ça de stabilité, même s'il faut effectivement s'ajuster en permanence au monde qui bouge.
Et Jean-Joseph Julot, dans votre pavé, la littérature française pour les nuls, vous proposez des centaines de refuges aux lecteurs.
Effectivement, et ça, c'est ce qui est extraordinaire.
Des milliers même.
La lecture, ça nous fait entrer dans mille et une expériences, et même bien davantage. On suit la vie de personnages qui sont souvent à l'acmé de leur passion, et on se dit, on s'infiltre, on chausse ces chaussures de l'aventure, et puis on y va avec eux, puis après on se réveille. Il y a comme un rêve qui se réalise, quelquefois un cauchemar, mais en fait il y a une autre vie qui nous a été proposée, et puis dans la littérature, on a le choix de tout, depuis le 17e, depuis le 16e jusqu'à nos jours. À nos jours, c'est très fertile, la littérature. Il y a énormément de courants qui se dégagent. La new romance, la fantasy, le cosy mystery, enfin beaucoup, beaucoup de courants qui sont là et qui sont passionnants.
Vous nous invitez à chausser des chaussures de l'aventure, et ça fait écho à ce que vous écrivez, Emmanuel Goudot. Vous dites que le grand texte a la particularité de nous faire voir en grand l'existence à laquelle nous pourrions prétendre.
Oui, à laquelle nous pourrions prétendre, parce que je reprends ce que j'évoquais tout à l'heure, on est un petit peu comme des ordinateurs, vous savez, on nous dit qu'on utilise nos ordinateurs à 5-10% de leur puissance, et au fond, nous, nos êtres, notre imagination, notre entendement, notre faculté de jugement, il y a tellement de choses en nous à activer, la société présente, elle a pas besoin de toutes ces fonctionnalités qui sont en nous, mais qui sont merveilleuses en réalité, et de se confronter au destin de ces grands êtres. On parlait de Racine à un instant, Bérénice devant être sacrifiée à l'autel du pouvoir chez Racine. Tout à coup, on est confronté à des situations extrêmes que peut-être dans nos vies, nous ne vivrons pas de cette manière-là, mais que nous vivrons quand même à notre échelle. Une des définitions que je donne du classique, c'est un texte que je pourrais dire devant la tombe de mes parents. Il y a cette force-là. C'est Pierre Michon dans Corps du roi, qui évoque la naissance de sa fille, la mort de sa mère, et dans les deux cas, le moment où il a envie de prier, il n'est pas croyant, la prière ne vient pas, et tout à coup il dit devant le cadavre de sa mère, la balade des pendus de François Villon, et devant le corps de ce petit être qui vient au monde, Beaux endormis de Victor Hugo. Voilà, c'est ça le grand texte.
Christine Appel-Edouard.
Oui, les grands textes nous transforment, enfin nous élèvent ça a presque un côté, une entrée dans une espèce de spiritualité non religieuse. Ou qui peut être religieuse aussi, parce qu'il y a de très grands textes religieux, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que la littérature, et pas seulement les classiques d'ailleurs, parce que les classiques ou les chefs-d'œuvre, il y a ceux qui sont universels et ceux qu'on se constitue aussi personnellement, mais nous élève dans une espèce de transcendance. On est plus que nous-mêmes quand nous lisons les grands textes. Et ça, c'est une ouverture d'esprit dont il ne faut surtout pas se priver.
Et c'est vrai que les classiques nous permettent de devenir des milliers d'hommes et de femmes et dans le même temps de rester nous-mêmes. C'est ce que disait l'auteur du Monde de Narnia, C.S. Lewis, qui développe cette idée, Emmanuel Godeau.
Oui, c'est le pape François qui avait repris cette idée-là dans sa fameuse lettre sur la littérature, qui est un texte absolument magistral sur la nécessité effectivement de lire tout type de texte. D'ailleurs, il y a de la sacralité, j'allais dire immanente,
la
transcendance est là. Oui, bien sûr.
Guillemette Audicino.
Oui, ça me fait plaisir que vous disiez ça et que Christilla dise oui. Alors il y a les chefs-d'œuvre et puis il y a aussi les livres dont on a décidé qu'ils étaient des classiques. En fait, parce que, évidemment que là, vous citez des auteurs, enfin, la question ne se pose pas, mais de temps en temps, en fait, on a son grand livre. Celui que peut-être, même, on va pas forcément oser dire à la face du monde, mais on a son grand livre. On a ce passage, ce petit morceau de chapitre qu'on aura envie de lire sur la tombe de quelqu'un, alors que ce n'est pas forcément ni du Proust, ni du Montaigne, etc. Mais cette notion, je pense qu'il faut vraiment différencier le grand livre du classique.
Mais ça peut se rencontrer.
Parce que chacun peut avoir aussi, en dehors des classiques, ce livre qui lui a ouvert des portes, qui lui a ouvert l'esprit, ou qui l'émeut à chaque relecture. Donc en fait, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est aussi la plongée extraordinaire dans la littérature. C'est que tout peut avoir de la valeur, d'une certaine manière.
Jean-Joseph Vulot.
Mais je crois que dans l'écriture même des classiques, il y a un ajustement tellement parfait de certains mots, parce que la langue, c'est une orfèvrerie. Et donc vous avez des bijoux d'expression qui sont là et qu'on aime justement se rappeler, qu'on aime apprendre par cœur dans un mois, dans un an, comment souffrir en nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous, mais quel cri, quelle beauté! Et puis tant de. Je passais jusqu'au lieu où l'on garde mon fils, puisque une fois le jour où vous souffrez que je vois le seul bien qui me reste d'Hector et de Troie, j'allais, Seigneur, pleurer avec lui. Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui. Mais je pleure à chaque fois, ou presque, moi.
Des frissons!
Entendant ça, c'est des frissons, voilà. Mais qui est capable d'ajuster les mots comme ça, justement? Ce sont les grands auteurs qui font les grands textes. Parce qu'on peut essayer autrement, on n'y arrivera pas.
Emmanuel Godeau, un livre a eu un rôle salvateur quand vous aviez 10-12 ans. Vous étiez orphelin de père, et c'est Athalie, la tragédie biblique de Racine, qui a joué un rôle fondamental dans votre vie. Les vers de Racine qui ont agi comme un baume apaisant sur vos souffrances d'enfant.
J'avais horreur quand j'étais enfant de ce terme qui pourtant est familier, le terme d'orphelin, orphelin de père, je trouvais ça affreux. Vous savez, quand on remplit dans les petites classes profession du père. Moi je mettais sans, alors on savait jamais si c'était sans père, pour moi ça voulait dire sans père, mais ça pouvait dire sans profession. Et puis un jour, c'est Racine, c'est la toute fin d'Athalie, apprenez roi des juifs et n'oubliez jamais que les rois dans le ciel ont un juge sévère, l'innocence un vengeur et l'orphelin un père. Alors ça,
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, ce qui me frappe aussi, c'est que dans beaucoup de ces classiques dont on parle, il y en a en fait qui se sont écrits et construits contre justement les classiques d'une époque et d'un temps.
Bien sûr.
Vous disiez tout à l'heure, on peut pas le dire autrement. Rimbaud a essayé de le dire autrement, Lautréamont a essayé de le dire autrement, Céline a essayé de le dire autrement, et puis d'autres, Claude Simon, etc. Donc il y a aussi, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas que des choses bien rangées dans cette bibliothèque de classiques, il y a aussi quelque chose qui est tendu, et du coup ma question ça serait aussi de se dire... quelles sont aujourd'hui les formes ou les auteurs ou les autrices ou les registres dans lesquels s'invente ou se perçoit quelque chose qui serait de l'ordre du classique à venir.
Jean-Joseph Vulot.
Oui, alors il y a tellement de variétés aujourd'hui, il y a tellement de tentatives, tellement d'essais. Je lisais il n'y a pas longtemps un livre de Daniel Bourrion qui s'appelle Le pays dont tu as marché la terre. C'est très curieux l'emploi de don ici, mais il est tout à fait correct. Et ce livre-là m'a beaucoup plu, et parce qu'il y a de l'inventivité. Il y a de, il faut savoir que Daniel Bourrieux a parlé un langage, enfin un dialecte alsacien, jusqu'à 3 ans, et on sent des structures qui lui sont restées, et ça donne un charme au texte. Je ne serais pas surpris que ça devienne peut-être un classique, parce que ça parle à nos oreilles d'une façon musicalement différente.
Et d'ailleurs, dans votre littérature française pour les nuls, Jean-Joseph Julot, on retrouve Abel Quentin, oui. Nicolas Mathieu, Virginie Despentes, Cécile Coulon, Neige Sino, Annie Ernaux, Édouard Louis. Donc, vous évoquez également, en plus des classiques que nous connaissons tous depuis le Moyen-Âge, vous évoquez également des auteurs contemporains qui deviendront peut-être des classiques demain, peut-être.
Oui, qui sont passionnants. Abel Quentin m'a enchanté. Il y a aussi Patrice Jean, vous savez, qui écrit d'une façon remarquable. Il y a tout un vivier d'auteurs aujourd'hui qui sont très prometteurs. Olivier Bourdeau, par exemple, aussi, qui a été un météore, mais fabuleux. Et on a toujours, tous les ans, des surprises. Et c'est même très agréable d'attendre la rentrée. On se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver comme bonheur au mois de septembre
ou de janvier aussi.
Et de janvier,
la rentrée de janvier.
Oui.
Allez, dans quelques instants, on continue à explorer le pouvoir extraordinaire de tous ces classiques qui nous font grandir. Mais il est déjà l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Alors, chère Ali, je vais vous parler des grands films. Ouais, mais voilà, en cinéma comme en littérature, le classique, c'est quoi ? On peut consulter ces listes qui pullulent sur Internet et en plus ne sont pas d'accord entre elles. Il y a celles qui sont cool en s'intitulant « Les meilleurs films ». Hein, c'est vague, et commence par « Il était une fois en Amérique », bon, ça va. Et celle plus intimidante, des meilleurs classiques de tous les temps. Ah, Citizen Kane, je l'ai vu, ouf, sentiment de fierté. Allez, ce soir, juré, je regarde 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis finalement, on se retrouve à visionner tranquillou, pour la 4e fois, Le Diable s'habille en Prada. Oui, bon, nous sommes des lavettes, mais bon, ça va, on n'était pas dans le mood pour un Kubrick. Le chef-d'œuvre nous fiche la trouille, et il peut même arriver, quand on finit par se lancer, qu'il nous déçoive. Et il y a toujours un petit malin pour vous balancer « Quoi ? T'as pas aimé ?» Enfin, alors que lui-même l'a vu il y a 20 ans et s'en souvient à peine. Alors solution, ne pas passer par la face nord pour gravir la montagne de la cinéphilie et choisir des films dont personne n'a pensé à hurler qu'ils étaient les meilleurs. Par exemple, au lieu de regarder « La vie est belle » de Frank Capra, « Quoi ? T'as jamais vu La vie est belle ?» Choisissez, vous ne l'emporterez pas avec vous, du même réalisateur.
Cela veut donc dire, Guillemette, que vous préférez celui-là ?
Mais chut ! Enfin, Ali ! Si je vous dis qu'il est meilleur, il devient premier de liste et toute ma logique tombe à l'eau. Alors, je vous dis juste que si vous voulez faire la connaissance de la famille la plus douce dingue, la plus délicieusement hurlu-berlu du cinéma, c'est dans ce film-là. Chez les Sycamores, la sœur passe ses journées en tutu, alors qu'elle danse comme un cosaque. Le père bricole des feux d'artifice dans la cave. Le grand-père s'est cassé la jambe en glissant sur la rampe d'escalier. Alice, l'aînée, est amoureuse de Tony Kirby, fils d'un grand patron de l'armement, pas marrant du tout. Écoutez-le face à son fils, joué par James Stewart.
Nous marchons de l'avant, comme c'était prévu. Nous posséderons, messieurs, le plus grand monopole privé du monde, si nous sommes malins. Particulièrement maintenant que Ramsay a mis les pouces.
Ramsay aussi ? C'est impossible.
Non, l'administration ne permettra jamais ça.
Nous aurions le contrôle de toutes les fabrications de matériel de guerre ? C'est exactement ce qu'il en est, messieurs. Puisque le monde a perdu la boule, il y aura de gros coups à faire sur les munitions et Kirby et compagnie peuvent s'apprêter à gagner de l'or.
Papa, comment te sens-tu ?
Oh, très mal, c'est l'estomac.
Oui, je m'en doutais.
Ces voyages à Washington me mettent les nerfs en plot. Heureusement, c'est le dernier. Maintenant, c'est eux qui viendront me voir. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y aura pas un obus, un fusil, un canon fabriqué dans ce pays hors de nos usines ?
Voyons, papa, ne me dis pas que tu as oublié l'industrie des lance-pierres.
Et vous savez, chez cet humaniste de Capra, comment on vient à bout d'un capitaliste cynique ? Eh ben, avec un harmonique. Et maintenant, le film qu'il faut présenter avec des pincettes, car son réalisateur était un sale con de pas féministe du tout. Henri-Georges Clouzot, surnommé le Hitchcock français, roi de la noirceur et de la cruauté, malmenait ses acteurs, et particulièrement ses compagnes, sur les tournages, comme la pauvre Vera Clouzot pour Les Diaboliques. Sa première compagne, Suzy Delair, avait heureusement un sacré répondant, dans la vie mais aussi à l'écran, comme on peut le voir et l'entendre face à Louis Jouvet dans oh, Quai des Orfèvres.
Allez, je vous promets que votre Maurice n'en saura rien. Qu'est-ce qui vous avait vu l'autre soir chez Brignon ? Parlez-moi un ami. Vous voyez bien qu'on est fait pour s'entendre.
Ça m'étonnerait. Il était ouvrier, papa. Mais il n'aimait pas les flics, lui non plus.
Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les flics?
Mais à vous, personnellement, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ceux que vous emmerdez, que vous traquez, que vous mettez tout vivant dans les mains des juges pour qu'ils en fassent des morts? La société. Monsieur défend la société. Vous savez que Brion était un vieux dégueulasse. Mais vous suivez le pauvre bougre qui l'a descendu. Et quelle raison de le descendre?
Déminez les flics, vous avez raison. Ce sont des gens qui vont mieux pas fréquenter. C'est pas du monde bien. Tellement crassé, vous qui serez assassiné, vous serez bien content de venir nous chercher.
Alors, c'est un polar. Et ça, c'est bien, parce que dans les classiques, les films policiers sont rares. Et puis ici, ce misanthrope de Clouseau se fait presque tendre. À partir du meurtre d'un gros dégueulasse, en effet, il tisse une intrigue épatante où il rend hommage aux artistes de cabaret, aux pères célibataires, aux petites ambitieuses qui ont bien le droit de l'être, et même à des sentiments féminins qui, en 1947, étaient loin d'être reconnus. Je vous entends d'ici, lundi, au bureau. Quoi ? T'as jamais vu qu'il y ait des orfèvres ?
Je rappelle l'ordonnance de cinéthérapie de la docteure Guimet Odissino. Vous ne l'emporterez pas avec vous, de Frank Capra avec James Stewart, en VO, si
sûr,
possible.
Bah oui, mais
et Quai des Orfèvres de Clouseau avec Louis Jouvet et Suzy Delair. Tiens, je signale le hors-série de Télérama, Les Frères Lumière, le cinéma et nous, 130 ans d'amour que vous avez coordonné, Guimet Odissino.
Oui. Il est trop beau.
Oui, c'est vrai.
C'est mon bébé. Alors voilà, il y a plein de choses dedans. Il y a non seulement des photos, des films des Frères Lumière, mais à tomber par terre de beauté. Il y a l'histoire des vieux cinémas, ceux qui ont disparu. Il y a un hommage au public, sans qui le cinéma n'existerait pas. Achetez mon bébé.
Le hors-série de Télérama, Les Frères Lumière, le cinéma et nous, 130 ans d'amour en kiosque. Dans un instant, on continue à s'intéresser aux classiques, aux grands livres qui nous font grandir. En attendant, on écoute Henri Salvador, Jardin d'hiver, une chanson sortie en 2000.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Et ça fait plaisir à Guimet, Henri Salvador, Jardin d'hiver.
Ali Rebéi.
Comme l'écrivait si bien Jean-Louis Gatto Balzac, originaire comme moi d'ailleurs de la ville d'Angoulême.
Grand bien vous fasse.
Puisque nous durons si peu, il n'est pas raisonnable que nous passions cette étape. T'as pas trouvé moins clair que ça ?
Non.
Ok.
Sur France Inter.
Dans Grand bien vous fasse, ce matin, on s'intéresse à ces classiques de la littérature, à ces grands livres qui nous grandissent, en compagnie des professeurs de littérature Emmanuel Godot et Jean-Joseph Julot, et avec la journaliste Christina Pelledouelle. Tiens, l'un des critères d'un classique, c'est le temps. Est-ce que le tamis du temps, c'est un critère fiable pour départager les classiques et le reste, Jean-Joseph Julot? Je rappelle que vous êtes l'auteur à succès de la littérature française pour les nuls chez First.
Alors le temps fonctionne à peu près pour tous les classiques, effectivement, mais je pense à un poète du début du 19e siècle, fin 18e, début du 19e, qui s'appelle Jacques Delisle. Jacques Delisle qui a été célébré comme un poète extraordinaire de la nature, les jardins. C'était phénoménal. Il y avait des milliers de personnes à ses obsèques. Eh bien, et je parle de Jacques Delisle aujourd'hui. Qui connaît Jacques Delisle ? Personne, vous voyez.
Personne.
Le tamis du temps a fait son œuvre. Il y a quelque chose de mystérieux, un petit peu. Et puis, d'autres ont survécu longtemps après. On les a redécouverts. Donc, il y a quelque chose de difficilement perceptible dans ces choix de la postérité. Mais ils existent.
Emmanuel Godot, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Avec les grands livres, actualité des classiques à l'Observatoire.
Oui, ben le grand livre, c'est celui qui est à la fois complètement inscrit dans son époque, donc on pourrait dire qu'il la reflète. On parlait de Racine, la langue de Racine, c'est la langue galante, c'est la langue de ce qu'on appelle les salons, hein. C'est une langue extrêmement orale au départ, et puis ça devient évidemment le grand modèle, la musique magnifique. Mais il n'y a pas de règles, effectivement, il y a de très grands textes, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, des textes qui ne sont pas a priori devenus des classiques et qui sont qui ont pourtant en eux une force, une charge. Moi, je sais que des textes même de Francis Carco, de Francis Jammes ont eu un rôle considérable dans ma vie de poète.
Christine Lapelle-Edouelle.
Je pense qu'il y a deux choses, hein. Il y a des classiques qui s'imposent à tous à travers le tamis du temps. Ils sont là, on les admire, on les lit, on parle de Racine, on pourrait parler de Corneille ou encore que sais-je, mais un bon exemple, je crois, c'est aussi le tamis des modes. Sur le moment, tout le monde célèbre des textes en disant c'est le chef-d'œuvre du siècle, c'est le grand texte qui va nous apprendre à vivre, etc. Et en fait, on s'aperçoit au fil du temps, même ça peut être assez rapide, hein, ça peut être 10 ans, que ça fait un flop absolument dingue et que plus personne ne s'en souvient. D'ailleurs, il suffit même, j'ai fait la petite expérience récemment, de se reporter sur des numéros de magazines d'il y a simplement 2 ou 3 ans et déjà, dès maintenant, alors est-ce que c'est l'effet de l'époque, mais dès maintenant on voit des noms qui surgissent et il n'en reste absolument plus rien. Donc je pense qu'il y a des choses très subtiles qui viennent là-dedans, et en revanche il y a des gens, c'est complètement dingue, les prix semblent être en particulier le Goncourt, hein. Mais franchement, ils en ont loupé pas mal de grands textes, et ils en ont célébré aussi beaucoup qui n'avaient strictement pas de valeur, aucun intérêt. On parle de Proust, hein, d'ailleurs.
Pour illustrer ce que vous dites, oui, effectivement, je pense à Louis-Sébastien Mercier, qui a écrit le Tableau de Paris au XVIIIe siècle, et qui dit à la mort de Voltaire, mais Voltaire, son théâtre, c'est extraordinaire, en revanche, le reste ne vaut rien.
C'est l'inverse qui s'est produit. À Guimette.
Et puis, je me demande si certains auteurs ont vraiment envie de devenir des classiques. Enfin, ou en tout cas d'être intitulé classique.
On leur demande pas, remarque.
Vous parliez tout à l'heure de Virginie Despentes. Pour moi, la trilogie de Verdun-Subutex est un très grand livre, enfin une très grande trilogie, qui raconte de manière absolument hallucinante le temps d'aujourd'hui.
Et halluciné.
Oui. Et qui, je pense, restera un grand livre dans l'histoire pour son témoignage et son style. Mais est-ce que Virginie Despentes a envie qu'on dise « Verdun Subutex, c'est un classique ». Enfin, donc c'est ça aussi qui me fait rire. Bien sûr que c'est nous qui décidons et pas les auteurs. Mais il y a des auteurs qui sont tellement, comment dire, rebelles et hors normes.
Oui, évident.
Que c'est peut-être pas obligé de les mettre dans cette case un peu...
Est-ce que la postérité va l'accepter aussi, Virginie Despentes?
Oui,
c'est ça. Parce que c'est quand même le fruit d'une époque, cette, cette exacerbation dans le vocabulaire et dans la pensée, est-ce que ça ne va pas se tasser après, et on va dire... Je ne sais pas, c'est là le grand mystère aussi des choix.
C'est ce que disaient les anciens. Horace dit qu'il faut 100 ans pour apprécier. Ce n'est pas nous qui pouvons décider aujourd'hui ce que seront les classiques de demain.
Alors Emmanuel Godeau, à la question « Pourquoi devient-on professeur de lettres ?», vous répondez simplement « Pour transmettre des bonheurs de lecture ». Et vous, Jean-Joseph Julot, dans votre littérature française pour les nuls, on ressent cette joie, ce bonheur de transmettre.
Oui, oui, il y a une forme de... C'est un métier honteusement heureux quand, évidemment, on a les conditions pour le faire dans de bonnes... de belles manières, de bonnes manières, bien sûr. Mais la littérature, c'est avant tout ça, bien sûr. Et puis, nous-mêmes, dans nos propres existences, dans nos propres parcours, nous avons eu des professeurs remarquables. J'ai eu, dans le secondaire, Madame Lespinasse, qui m'a fait appris...
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Madame Lespinasse?
Elle m'a appris Ronsard, quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, les vidantes et filins, etc. Et j'ai toujours ces vers en tête. Et puis, en classe préparatoire, Jean Pillin, au lycée Condorcet, c'était mon maître. Il m'a appris Mallarmé, il m'a appris Ségalène, il m'a appris Rémy de Gourmont, des auteurs qui ne sont pas précisément supposés être des classiques. Rémy de Gourmont, des tas de petits auteurs en apparence, mais qui sont absolument essentiels.
Sur le bonheur de transmettre, je me souviens de ma prof de français de seconde, Madame Jarty, au lycée Bellevue de Toulouse, qui m'a transmis le bonheur de lire Maupassant, en particulier Bel Ami, que je relis régulièrement avec un bonheur intact. Sur ce bonheur de transmettre, Jean-Joseph Julot, qu'on sent très fort dans votre livre.
C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut savoir faire oublier aux élèves qu'ils sont entourés de murs et qu'il y a des fenêtres qui sont avec des vitres et qui ne peuvent pas traverser. Et là, ils peuvent s'échapper à travers la littérature. Ce que j'aimais bien, c'était raconter une œuvre, raconter un livre, mais m'arrêter à la moitié et leur dire « Vous allez trouver le livre ». Et alors là, figurez-vous qu'à la fin, ils se précipitaient. C'était une course incroyable à celui qui aurait le premier le livre en main.
Christine Appelé-Douane.
Mais je crois que presque toutes les personnes qui ont un amour fou pour la littérature ont eu un professeur remarquable dans leur parcours scolaire. Pour ma part, je me souviens, alors je vais me faire le plaisir de dire son nom, de mon professeur au lycée Victor Duruy, qui s'appelait Simone Webel, et qui était une femme extraordinaire, amie de Prévert, et qui savait dans sa classe faire vivre les textes. Et je me souviens encore aujourd'hui de sa lecture à haute voix, de Zone, ce poème extraordinaire de...
Apollinaire,
merci. Et qui nous a complètement mais soulevé de terre. Et elle a laissé cette empreinte, et je suis sûre, chez toutes mes anciennes camarades de classe.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, à vous écouter, on voit bien que l'école...
Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Est-ce que vous vous sentez concerné par notre conversation ?
Oui, parce qu'il y a aussi, de toute façon, dans le métier de professeur, un plaisir de transmettre. Mais là, à vous écouter, on entend bien qu'il y a un rôle de l'école qui est essentiel dans la transmission dans le devenir classique de certains textes chaque année. Quand il y a le bac de français qui tombe, on se dit, parfois il y a un auteur plus contemporain qui tombe, et on dit ça y est, il a été entre guillemets validé par l'institution scolaire, il y a des choses comme ça. On pourrait avoir une approche un peu réductrice de dire finalement un classique c'est ce qui s'étudie à l'école. Et du coup, ça vient heurter, et spéciale dédicace à mon fils Constant, qui est en première, qui prépare le bac de français, dont beaucoup des livres du programme l'ennuient profondément.
C'est exactement la question que j'allais poser à nos invités. C'est vrai que pour certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs, le classique sonne comme un livre assommant, ennuyeux. Nous avons tous des souvenirs scolaires pénibles. Pour ma part, je me souviens avec effroi, et je sais que ça ne va pas faire plaisir à Emmanuel Godeau, mais d'attendre de Chateaubriand, ou encore d'Eugénie Grandet de Balzac, que j'avais détesté en quatrième, mais que j'adore aujourd'hui. C'est un très grand livre, Eugénie Grandet. Mais est-ce que parfois, il n'est pas trop tôt pour lire certains classiques?
Les fameuses longues descriptions de Balzac.
En fait, effectivement, on les étudie très tôt. On est encore peut-être un peu jeune. Moi, je me souviens, en quatrième, c'était L'étranger de Camus et c'était le Cid de Corneille. Mais je me dis toujours que, même si c'est un peu tôt, parce que l'existence n'a pas encore fait son travail de maturation, pardon, de la banalité de l'image, mais on sème, on ouvre, on entr'ouvre une porte. Et on s'apercevra un peu plus tard que Constant est en train de peiner sur des descriptions balzaciennes. Mais s'il persévère un petit peu en se disant « Tiens, il y a quand même quelque chose d'intéressant », peut-être que dans 5-10 ans, il s'apercevra que, justement, ce sont les descriptions qui sont absolument palpitantes chez Balzac. Et tout est dans les descriptions.
Jean-Joseph Julot.
Oui, ou bien alors, on nous propose, dans l'enseignement, un éventail de classiques. C'est la formation du goût. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ne pas aimer les descriptions de Balzac, mais on va se passionner pour ce que Zola nous propose. On peut ne pas aimer le côté noir de Maupassant ou s'enthousiasmer aussi pour le côté brillant de Bellamy du même Maupassant. Il y a là des choix qui nous sont proposés. On n'est pas obligé de tout aimer. C'est ça, on peut même détester et puis le dire, et ça fait du bien. Mais on peut dire que ça nous passionne aussi.
J'aimerais qu'on revienne à quelques définitions des classiques. Emmanuel Godot, vous écrivez qu'un classique, c'est une œuvre qui nous aide à mieux voir et à mieux vivre en nous.
Oui, d'abord, on les
Et ça a... fait écho à ce que disait, ce qu'écrivait Italo Calvino, toujours dans Pourquoi lire les classiques, et je le cite, « Le classique ne nous enseigne pas nécessairement quelque chose de neuf. Parfois, nous y découvrons quelque chose que nous avions toujours su ou cru savoir, sans savoir que c'était ce livre-là qu'il avait dit le premier. »
Ouais, Claudel dit que pour il y a qu'une seule manière pour des livres d'être neufs, c'est d'être éternel.
Donc sur les classiques qui nous aident à mieux voir et à mieux vivre en nous.
Oui, parce que d'abord, on vit dans une forme de confusion des discours. On est dans une sorte de Babel où des sollicitations sont permanentes. Même pour les jeunes, là, on est sollicité par tellement de choses. Tout à coup, dans le classique, il y a un effet de resserrement, de concentration. Il y a une faculté à faire taire. C'est une des définitions aussi de Calvino, ça, que le classique, il n'éteint pas complètement, mais provisoirement, il fait taire le bruit environnant. Et après, on pourra revenir dans le monde mieux armé. Mais je crois c'est une grande école de l'écoute.
Le classique résout des énigmes que nous portons aussi en nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Et puis, tout d'un coup, on a un éclairage extraordinaire apporté par les anciens ou par des moins anciens. Et puis, qui nous dit, voilà, ton problème est résolu. Mmh. Et on peut aller plus loin.
Tiens, en cette période très instable, angoissante, inquiétante, de quelle façon les classiques peuvent nous aider à affronter ces temps difficiles, Christine Appeléduel ?
Mais je pense que les classiques, comme nos petits classiques personnels, portent en eux, s'ils nous touchent, ils portent en eux des réponses à des situations que nous traversons. Le problème de la guerre, par exemple, il est aussi vrai dans des textes du XVIe siècle que des textes contemporains. On n'a pas parlé de littérature étrangère, mais comme celui de Vassili Grossman, par exemple, « Vie et destin », qui est un livre tellement extraordinaire au sens propre.
Tiens, c'est d'ailleurs « Vie et destin » de Vassili Grossman, l'un des livres fondamentaux qui vous ont aidé à grandir et qui vous ont construite, Christina.
Ah oui, absolument. C'est un des livres qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'époque. Sur la guerre en tant que telle, mais aussi sur ce qu'est le fascisme et sur des notions beaucoup plus philosophiques, ça c'est pour Thibault, sur la notion de bien et de mal. Et le texte de Grossman est tellement riche, tellement nuancé, avec toutes ces pages de discussion, ces personnages absolument inoubliables, bouleversants. C'est un texte qui vous construit. Enfin, moi, ça m'a construite absolument, ce texte.
Vie et destin, disponible en poche. Jean-Joseph Julot, pourquoi est-ce que les essais de Montaigne, que vous ne cessez de lire, de relire, de quelle façon les essais peuvent nous aider à affronter les temps difficiles que nous traversons?
Ah ben parce qu'il a une approche extrêmement sereine de tout ce qu'il perçoit, de tout ce qu'il observe. Il ne s'effraie de rien. Et puis, il nous offre une philosophie qui n'est pas compliquée. On va droit au but. Et on a cette façon de voir le monde qui nous permet d'affronter justement toutes les difficultés en disant, mais c'est pas grave, parce que tout bouge, tout est toujours en mouvement. Et puis, tout va se résoudre. Il n'y a pas de... Y a pas pas de peur à développer, et son scepticisme est une leçon de sagesse. C'est un ami, pour moi, c'est un ami qui me parle tous les jours, qui me dit des choses sages. Ne t'en fais pas, ça va s'arranger.
Et n'ayez pas peur des essais de Montaigne, parce qu'il existe des versions traduites en français moderne, notamment chez Quarto Gallimard.
Oui, parce que il faut dire que la langue instable dont on parlait tout à l'heure et qu'utilisait Montaigne, eh bien, elle a été quand même modernisée, elle a été traduite en français, et c'est très agréable de lire le texte en français. Mais il y a du charme aussi pour lire Montaigne dans le texte, hein, parce que on entend, je suis d'une région qui parle le gallo, hein, eh bien, on entend un petit peu de cette langue romane et qui est très proche du latin d'ailleurs.
Elle est difficile.
Oui, elle est difficile, mais pleine de charme.
Emmanuel Rabelais,
c'est pareil. Hein.
Emmanuel Godot, un livre, un classique pour affronter nos temps difficiles.
Oh ben moi, je pense à la Divine Comédie de Dante, toujours, parce que l'Italie à feu et à sang, et puis quelqu'un qui, au lieu de se laisser gagner par le ressentiment, par le désenchantement, va percer, évidemment, et va regarder le mal en face et essayer de le peindre de la façon la plus nette. Et puis, il nous lègue un livre de lumière et d'espérance. Donc ça, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu.
Pouvoir magique des classiques. Allez, dans un instant, c'est la punchline philo du magique Thibaut de Saint-Maurice. On ne naît pas femme, on le devient, de Simone de Beauvoir. En attendant, on écoute Holly Cook qui interprète Shy Girl. Qu'interpréter Shy Girl.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit en mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ?
Si. Ben, si.
Alors, ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, dans votre punchline philo, c'est une célèbre citation d'une femme philosophe non moins célèbre qui vous intéresse. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, Ali, et c'est l'occasion pour moi d'insister sur le fait que depuis le début de ces chroniques sur les punchlines de la philo, c'est la première fois que j'en traite une dont l'auteur est une autrice, la philosophe Simone de Beauvoir. Alors, c'est tout le problème de notre histoire de la philosophie classique qui fait la part belle aux hommes philosophes. Non pas qu'il n'y ait pas eu de femmes philosophes, mais il y en a a eu moins, dont les travaux sont passés à la postérité. Et donc, logiquement, cela donne moins de célèbres citations écrites par ces femmes philosophes. Alors, si on ne peut pas refaire l'histoire, on peut tout de même la relire différemment et faire de ce déséquilibre de la postérité la meilleure des raisons pour prendre le temps donc de mieux lire aujourd'hui ces femmes qui ont pris part à notre histoire de la pensée. Alors revenons à Simone de Beauvoir et à cette formule si importante, on ne naît pas femme, on le devient. On la trouve dans son livre intitulé « Le deuxième sexe » publié en 1949. Avec cette formule, Simone de Beauvoir pose une distinction fondamentale entre le biologique et le culturel, entre le sexe et le genre, entre la nature et la liberté. Tout son travail consiste à montrer qu'être femme n'est pas une donnée naturelle, mais que c'est le résultat d'une histoire, que c'est le résultat des constructions d'une époque, d'une société, d'une éducation. Alors tiens-toi droite, croise les jambes, ne grimpe pas aux arbres, attache tes cheveux, ne te mets pas en avant, occupe-toi de ton petit frère, aide ta mère. Toutes ces injonctions fabriquent de la féminité chez les petites filles en fonction des normes d'une époque sans que rien de physiologique ou de psychologique ne le justifie.
Cette phrase est donc tout autant une dénonciation qu'une libération.
Oui, exactement. En présentant la féminité comme une construction, Simone de Beauvoir dénonce la manière dont le sexe devient le prétexte à une représentation inégale du genre. La féminité est construite comme une version inférieure de la masculinité, premier sexe par excellence, tandis que les femmes donc doivent se contenter de la seconde place. Ainsi, Simone de Beauvoir ne nie pas les différences biologiques. Elle prend d'ailleurs le temps de décrire dans le détail le corps féminin dans toutes ses singularités physiologiques. Mais c'est pour montrer qu'aucune de ces différences ne détermine ensuite les représentations inférieures qui y sont associées. Toute l'importance de ces différences, le fait même qu'elles soient considérées comme importantes et comme impliquant une différence de valeur, et ben tout ça vient du contexte historique et social. En le mettant en lumière, elle libère donc aussi les femmes d'un éternel féminin qu'on leur impose. L'intérêt de montrer que la féminité est construite, c'est que, comme tout ce qui est construit, eh bien on peut la déconstruire. C'est vrai de la féminité en général, et c'est vrai pour chaque femme dans l'intimité de son histoire, et chez qui a été construite une version socialement acceptable de la féminité. Simone de Beauvoir, elle déploie ici une philosophie de l'existence au cœur même de la situation des femmes. Elle invite en retour chaque personne de sexe féminin à se construire librement à la seule mesure de sa liberté. Alors c'est assurément pas facile, mais c'est le chemin qu'elle ouvre et qui donne naissance à tout le féminisme contemporain, celui de l'égalité des droits et celui de la lutte contre les discriminations et les violences. Ce qui est intéressant enfin, c'est que cette déconstruction de la féminité a aussi pour conséquence une déconstruction de la masculinité, car les deux évidemment se construisent réciproquement et que l'émancipation féminine ouvre donc la voie à des expressions moins toxiques du masculin, raison pour laquelle le féminisme est un humanisme.
Un petit commentaire, Guillemette ?
Alors, je répète, le féminisme est un humanisme. Donc ça, c'est mon premier commentaire. Deuxième commentaire, Thibault, je veux t'épouser.
Trop tard.
Trop tard.
Bah, je m'en fous, on va se débrouiller. Je vais déconstruire et après...
La prochaine fois.
Les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maury sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci au Bouvard et Pécuchet du vendredi. Thibaut et Guillemette, merci Emmanuel Godot. Je recommande vraiment Avec les grands livres, Actualité des classiques, c'est publié à l'Observatoire. Merci Christine Appelé-Douel. Merci Jean-Joseph Jules. La nouvelle édition de la littérature française pour les nuls, c'est publié chez Feurth. 800 pages pour se régaler dans le grand festin de la littérature nationale. Merci Nathalie Romero pour la programmation de cette émission avec l'aide de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan pour la réalisation, à qui je souhaite un bon anniversaire. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Mathias Alléon.